Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Fringale. On se retrouve ce soir pour débriefer la première Ardennaise de la saison et on peut dire qu'on a eu du spectacle. On en a eu pour notre argent aujourd'hui. Alors c'était un petit peu difficile de choisir car le temps était magnifique. Restez sur son canapé parce que là pour le coup il fallait pas débrancher à 60 km de l'arrivée parce que c'était joué. Hein. Non, bien au contraire, il fallait rester jusqu'au bout ou alors partir se promener et rater cette magnifique course de vélo. J'espère que vous avez fait le bon choix et si jamais vous n'avez pas tout vu, nous sommes là ce soir pour en parler toutes et tous et voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Pour m'accompagner ce soir, notre meilleur Ardennais, c'était déjà le meilleur Flandrien, c'est Adri. Salut Adri, comment vas-tu ?
Salut la Torne, bonsoir à toutes et tous. Bah écoute, ça va, écoute, en pleine forme. Hein. Moi, j'ai choisi aujourd'hui d'aller justement profiter du beau temps ce matin avec quelques heures d'entraînement et je suis revenu pile poil pour la course féminine et puis j'ai enchaîné avec la course masculine cet après-midi. Donc,
tu t'es dit
j'ai réussi
pas.
à faire les deux. Voilà. Donc, je me suis régalé à tout point de vue toute la journée. Donc, c'était top.
T'as repris deux fois du vélo, quoi. Enfin, trois fois avec l'entraînement de ce matin, visiblement.
Ouais, c'est ça. Il y a eu entraînement. Ça va, j'ai fait un peu de course à pied entre temps, tu vois, histoire de varier les plaisirs.
Ouais, t'avais peur de t'ennuyer.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'était histoire d'arriver bien cramé pour m'obliger à rester dans le canapé toute l'après-midi.
Adri, si vous le suivez sur Strava, c'est le genre de mec où vous vous demandez comment il fait. Voilà, c'est assez exceptionnel. C'est le mec qui fait plus de kilomètres en piscine dans la semaine que vous en course à pied. Voilà, donc inquiétez-vous, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, on n'est pas non plus sûr. Il y en a qui font beaucoup plus. Hein. Il y en a qui font beaucoup plus.
Ok, bon Adri, Tom Pidcock qui s'est imposé aujourd'hui dans une course qui a été alléchante jusqu'au bout, hein, difficile de savoir qui allait être le vainqueur. Comme on fait souvent là sur nos débriefs actuellement, j'ai sélectionné plusieurs points que je te propose de discuter. Bien évidemment dans le chat, bah, déjà j'espère que tout le monde va bien et puis bah, n'hésitez pas hein, à intervenir avec nous et à nous dire ce que vous avez pensé de la course. Ce que vous avez à dire, comme on disait, première Ardennaise de la saison qui va lancer ce petit triptyque Ardennais, donc on le sait, Amstel into Flèche Wallonne que Benoît Cosnefroy va remporter, préparez-vous, into Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Aujourd'hui, du coup, Adri, j'ai préparé plusieurs points pour qu'on débriefe la course du jour et le premier point que j'ai envie de te soumettre, on en parlait un peu en off tout à l'heure, t'as un peu calmé mes ardeurs mais moi je reste là-dessus. Aujourd'hui, est-ce la meilleure course, mais la meilleure classique masculine de la saison depuis le début de l'année ?
Bah écoute, ça dépend comment est-ce qu'on définit meilleur. En tout cas, c'est sûr que c'est une course à suspense et on avait été assez peu habitués depuis le début de la saison, notamment sur les grandes épreuves, mis à part Milan-San Remo, où Milan-San Remo, de toute façon, il y a toujours du suspense jusqu'à la dernière seconde. Sinon, on avait eu beaucoup de cavaliers seuls, notamment par Pogacar et Van Der Poel, les extraterrestres. Donc, ce qui était cool dans cette Amstel aujourd'hui, c'était le suspense. Vraiment, c'était indécis jusqu'à la dernière seconde. Et également, c'est aussi grâce à l'Amstel, en fait, grâce à cette course qui permet aux coureurs de pouvoir anticiper, de prendre un temps d'avance, et puis ça tournicote, ça monte, ça descend tout le temps. Et c'est un profil qui favorise ce scénario de course, même si on se souvient que l'an dernier, Pogacar avait écrasé la concurrence. Mais voilà, en tout cas, super, super course, effectivement. Enfin, moi, je me suis régalé à la suivre. Et puis voilà, ça fait plaisir d'avoir quand même des classiques, des grandes épreuves indécises jusqu'au bout.
Tout à fait, c'est un peu le point que je voulais te soumettre, j'allais te parler de l'an passé. L'Amstel, c'est vraiment une course que j'adore, moi. Et on en parlait en off, tu disais que c'est vrai que depuis que le parcours a changé et qu'on n'arrive plus en boss finalement, bah c'est beaucoup. Mais malgré tout, l'an passé, on avait cette magnifique Amstel et on s'est ennuyé. Et du coup, cette première course avec le côté la meilleure, enfin ennuyé, j'abuse un peu. En plus, il y avait eu ces questions.
Oh, c'était sympa.
Pogacar était-il même, dans ça. La voiture, pas dans la voiture, Benilly à 30 secondes pendant ah oui, plusieurs kilomètres, etc. etc. Mais malgré tout, en fait, on parle de fantastique. Alors oui, on a des fantastiques sur le vélo. Mais on n'a peut-être pas des fantastiques pour du fun en tant que spectateur devant l'écran. Enfin, C'est un peu l'avis que j'ai à donner là-dessus. Alors ouais, c'est clair, les perfs sont dingues et voilà, c'est toujours impressionnant et on pourra dire plus tard qu'on a vu ces courses en direct avec des gars exceptionnels. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, bon, alors Van der Poel était là, on en parlera plus tard. Est-ce qu'il était vraiment cuit? Est-ce qu'en vrai, il vise à fond Liège et comme on l'a vu l'an passé, il a un peu mis de côté aujourd'hui en se disant, bon, je suis pas dans le premier groupe, tant pis, je vais pas me donner à fond, j'ai déjà entre guillemets réussi ma saison, puis on se dépouillera, on se déplumera sur Liège la semaine prochaine, mais pas aujourd'hui sur l'Amstel. Bref, on en parle après. En tout cas, on a vu des coureurs qu'aujourd'hui on mettrait plutôt en coureur de second rideau, hein, Tom Pidcock, excusez du peu, nous faire une course de folie et on a eu du suspense jusqu'au bout, on s'est régalé. Encore une fois, on n'a pas su qui allait l'emporter jusqu'aux derniers hectomètres, puisque alors on avait un groupe de 4 devant, un petit groupe juste derrière avec un Paul Lapeyra magnifique dont on va parler juste après, et puis le peloton hein, qui n'arrive finalement qu'à 11 secondes. On sait qu'avec la jurisprudence Mathieu Van Der Poel sur l'Amstel et Julien Alaphilippe et Jakob Fuglsang, on sait qu'il ne faut pas trop se regarder sur la fin, hein, ça peut revenir très très fort de derrière. C'était une course de folie et finalement, comme je te disais, est-ce que nos fantastiques ne sont-ils pas finalement plus fantastiques pour les statistiques et un peu moins pour nous en tant que spectateurs?
Bah après, ça dépend devant quoi on choisit de s'extasier et puis qu'est-ce qui nous fait vibrer et puis qu'est-ce qu'on kiffe. Moi je sais que je prends aussi beaucoup de, enfin, de toute façon je prends tout le temps du plaisir à regarder du vélo quel que soit le scénario de course et je trouve toujours des trucs chouettes dans chaque scénario. Après c'est sûr que en termes l'adrénaline du dernier kilomètre avec Van der Poel, on l'a pas eu sur Paris-Roubaix et puis sur le Tour des Flandres. Là, on a retrouvé une intensité, le petit truc que moi j'adore dans le Poggio par exemple, où tu sais que la course va se jouer sur un rien en quelques secondes. Mais bon, après quand ils sont voilà, quand t'es fort, quand t'es au-dessus du lot, bah t'as tout intérêt à anticiper ça et puis à réduire les chances des adversaires de gagner sur des coups tactiques ou des coups de dés. Donc voilà, après c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des fantastiques comme tu les appelles à l'heure actuelle sur les grandes courses de vélo. Donc voilà, moi je suis content quand même que Van der Poel n'ait pas attaqué à 40 bornes et puis ait pas éclaté tout le monde aujourd'hui parce que bah voilà, ça montre aussi qu'il est peut-être un petit peu fatigué de son début de saison, on en reparlera tout à l'heure, que des jours sans ça arrive, et puis ça met en avant aussi d'autres coureurs, d'autres tactiques, des gars, et puis les gars qui ont osé anticiper, qui ont pris des risques, ben ils ont été récompensés aujourd'hui. Donc ça, c'est toujours chouette à voir, quoi. L'offensive a payé, et puis voilà, cette course à plusieurs échelles. Et ça, c'est souvent sur l'Amstel. Hein. On a l'exemple de quand Van der Poel gagne en 2019, où il est dans un troisième groupe à la Flamme Rouge. Là, on était presque sur le même genre de scénario avec trois groupes qui se livraient bataille. Et non, c'était vraiment. C'était vraiment chouette avec des coureurs, bah voilà, qu'on avait Marc Hirschi qui revient tranquillement et qui se rapproche quand même de son niveau de
il est 2020, dans la liste, Adrien, il est dans la liste.
ouais, voilà. Donc non, du coup, voilà, mais content d'avoir eu ce scénario aujourd'hui quand même.
Alors. On a eu un vainqueur aujourd'hui, Revanchard, qui, dans un sprint de folie il y a quelques années, était passé à un demi-boyau de la victoire, battu par Wout Van Aert, là où on découvrait à quel point il pouvait être dangereux sur une arrivée au sprint en petit comité après plusieurs bornes. On savait qu'il était rapide, Tom Pidcock, mais après ce sprint avec Wout Van Aert, on s'était dit « Ah ouais, quand même, le garçon !» Enfin, on n'imaginait pas une seule seconde Van Aert être battu par Pidcock, et là, on avait énormément tremblé ce jour-là. Tom Pidcock, aujourd'hui, il s'impose sur une des plus belles classiques du calendrier, Tom Pidcock, qui a fait une course magnifique. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui il a fait la course parfaite, et notamment, tu sais, avec ce moment à 4 km de l'arrivée là, et quelques où Lapeyra il a presque rejoint le groupe, et on peut se dire qu'en fait s'il rejoint le groupe, bah, peut-être que les 4 de devant ils se regardent en mode ah il vient de rentrer lui, et tous les autres qui sont juste derrière Lapeyra vont rentrer aussi, et puis ça s'arrête là. Pidcock, juste avant qu'il fasse la jonction Lapeyra, il remet une attaque, il secoue tout le monde, finalement les quatre partent ensemble, et puis derrière, voilà, il sprint magnifiquement bien, il fait pas d'erreur, c'est-à-dire qu'on va parler d'Hirschi après, mais on pourrait se dire qu'à un moment, il pourrait être tenté de l'enfermer un peu ou machin. Ou... Non, le sprint est hyper propre, il part au bon moment malgré le vent de face et il vient s'imposer. J'ai eu un tout petit peu peur quand il a levé les bras. Je me suis dit genre, aïe, 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 est-ce qu'il les a pas levés trop tôt? Est-ce qu'il fait pas un petit clin d'œil à la course féminine qu'on avait juste avant? Mais non,
ça aurait été marrant deux fois, ça arrive sur le même jour.
Mais franchement, tu sais, parce qu'Hirschi revenait très très fort hein, sur la fin. Et puis finalement, non, c'est bien Pidcock qui vient s'imposer, hyper impressionnant. On l'avait déjà vu un peu à l'avant hein, sur Paris-Roubaix où il n'était pas prévu, mais suite à sa chute sur la reco du chrono du Tour du Pays Basque, il avait finalement décidé de s'aligner sur Paris-Roubaix. Magnifique Pidcock aujourd'hui, on sait que c'est une classique qui lui va bien. Il était à l'avant aussi l'an passé, mais battu par Pogacar et Ben Hilly. Cette année, il va la chercher. Moi, c'est un coureur que j'aime beaucoup, donc je suis très content. Puis comme dit, je suis très heureux de voir comment il a manœuvré. C'est fou parce que Pidcock, quand tu le vois à l'avant, t'as jamais l'impression que c'est le plus fort. Et pourtant, comme sur l'Estrade Bianchi l'an passé, c'est lui qui s'impose aujourd'hui. Et félicitations. Ça a grandi un palmarès qui est déjà pas trop mal.
Ouais, pas trop mal, mais il a que 5 victoires pro hein, quand même. Hein. Je regardais justement et j'étais surpris. Je pensais qu'il avait gagné beaucoup plus. Et ben en fait, il a gagné. La dernière victoire, c'était l'Estrade Bianchi l'année dernière. Il gagne l'étape sur le tour à l'Alpe d'Huez.
J'allais dire, il a l'étape à l'Alpe.
En 2022. Ah, par contre, c'est des belles victoires.
Ah oui, je peux dire.
La flèche Brabanson en 2021 et puis une étape sur le tour d'Algarve début 2023.
Ok.
Mais
il sélectionne
mais
le
sinon,
monsieur.
Du coup, mais après, on verra. Peut-être qu'il en regagnera une autre cette année. Mais en tout cas, Pidcock, il a très bien surtout senti le bon coup partir et il a osé. Il n'a pas été le premier à suivre Hirschi hein, qui a lancé l'offensive décisive. Mais à un moment, il s'est dit, allez, là, faut que je fasse le jump. Et tu disais que qu'on n'avait pas l'impression que c'était le plus fort du groupe. Moi, j'ai vu très clairement que c'était le plus costaud du groupe direct, quoi. On voit vraiment dans.
Putain, pour moi, c'était Benoît tous les jours le plus costaud.
Mais tu sais que tu vois que Benoît, il va pas lâcher à la pédale Pidcock et que Pidcock, il va le battre au sprint. Pour moi, c'était sûr. Dès qu'il a rejoint le groupe. D'échapper, donc juste après son effort, il est en queue de groupe. Alors j'ai oublié le nom du berg parce qu'il y en a tellement, et puis j'ai du mal à retenir les noms hollandais, mais du coup, c'est là, je crois, où Benoît met son attaque sur le grand plateau avec un braquet de fou.
Le tracteur, et, tu peux le dire.
Et il a pris son temps pour revenir, il a vraiment géré son effort alors qu'il venait de faire le jump, et après, il en a. Enfin, il a roulé, il a montré qu'il était costaud devant. Et c'est marrant parce que moi je me suis dit là c'est clairement pour lui quoi. Une fois qu'ils étaient les 3-4 devant, j'avais un peu de, je me disais peut-être que Hirschi peut le battre si Pidcock négocie mal son sprint. Mais en tout cas, je voyais personne le lâcher à la pédale.
Ah, en fait, c'est-à-dire que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'était le plus rapide au sprint, mais moi je me disais que alors. En fait, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais tu vois, je pense que, par exemple, s'il y avait une bosse encore un peu plus dure avant l'arrivée, je m'imaginais genre Hirschi ou Benoît potentiellement pouvoir le lâcher. Là, c'est vrai qu'au vu du parcours, il était bien, mais dans la sensation de puissance dans les bosses et de machin et trucs, j'avais quand même l'impression que genre, même Hirschi, hein, Hirschi un peu moins, mais vraiment, moi, Benoît me faisait une impression de ouf et je me disais genre, mais il est tellement fort. Après, c'est sûr qu'il était moins rapide au sprint, on va en parler juste après, mais j'avais pas, Pidcock, j'ai toujours cette impression que tu te dis qu'il va être dur à lâcher, que tactiquement, il est bon, mais qu'en même temps, je le vois jamais dans un groupe en mode, c'est moi le patron du groupe, je fais peur aux autres, tu vois, là, genre là, par exemple, c'est Hirschi qui a, tu vois, ils auraient pu se dire, genre, on est avec Pidcock, ça vaut pas le coup et tout. Finalement, tout le monde a joué sa carte jusqu'au bout en se disant, tu vois, ils se sont pas dit, tu mets Van Der Poel à la place de Pidcock, alors c'est pas le même palmarès, mais
c'est pas les mêmes coureurs.
Pourtant, on savait qu'au sprint, clairement, Pidcock était le plus rapide, tu vois.
Ah oui.
Et il y en a pas un qui a douté une seule seconde.
J'ai été surpris qu'il roule autant avec lui quand ils l'ont repris, quand il a tapé dans le final. Après, c'est aussi grâce à ça qu'ils arrivent les quatre ensemble, parce que s'ils l'enterrent à ce moment-là. Mais pour moi, en fait, quand il attaque à ce moment, j'ai pas forcément compris son attaque, parce que pour moi, il avait tout intérêt à continuer à rouler avec les gars pour justement arriver au sprint avec eux. Et je trouvais que c'était une prise de risque. Alors finalement, ça lui a rien coûté. Mais en essayant de sortir comme ça, il aurait pu mettre à mal l'échappée. Et puis si les gars, ils commençaient à dire « bah attends, là, on va pas te relayer parce qu'on vient de cravacher pour te rentrer dessus, toi t'attaques comme ça, bah vas-y maintenant roule grand. » Mmh. Et clairement il y a, enfin tu vois, Maurice Van Sevenant, il aurait pu faire un truc comme ça parce qu'on voyait qu'il était en plus
cramé.
Il était cramé de chez cramé, et puis bon après clairement il a roulé pour faire 4 dans le final, et puis tant mieux pour ses trois compagnons de la fin de course. Mais ouais, il a pris un petit risque, Pidcock, et en sortant comme ça, il a montré qu'il était hyper costaud. Mais bon, après ça, voilà, ça fait partie de la course, la tactique, et puis ça lui a pas porté préjudice pour la fin. Mais
ouais, puis tu vois, au vu de comment le groupe fonctionnait, parce qu'Hirschi aussi, hein, il a secoué un peu une ou deux fois, j'ai l'impression que finalement, t'as raison, il peut se passer l'effet où tout le monde se dit. Bon bah on va pas rouler avec lui, en plus il vient d'attaquer, mais d'un autre côté je me dis, je pense que à ce moment là l'Apera il est à quoi, il est à 5 secondes, on le voit là, il est derrière dans le virage, il est vraiment à rien, je pense qu'il est à 10-15 mètres, tu vois, enfin ça écrase un peu, mais voilà. Et en fait je pense qu'il en remet une en se disant là en gros, s'il y en a un derrière qui rentre, tout le monde rentre. Et tu vois, genre l'Apera, ok, c'est pas Pidcock, mais on sait qu'il est extrêmement rapide au sprint. Et je pense que dans le groupe de derrière, tu vois, par exemple, il y avait deux Groupama aussi. Enfin, et je pense que Pidcock, il se dit, oula, là, faut pas que ça rentre, parce qu'en fait, le risque, c'est pas forcément juste le groupe tout de suite derrière. Mais s'il rentre, on s'arrête. Et par contre, derrière, il y a le peloton qui est à 30 secondes. On sait que ça peut rentrer sur la fin. Et là, il y a des mecs, c'est sûr qu'ils vont nous taper, quoi. Et je pense que son attaque, elle permet juste de redonner pile poil le coup de jus qu'il faut à l'échapper, et aussi avec ce côté où on a quand même eu l'impression que toute la course, ça a été ça. Ça a été une course de chat et de la souris, parce que finalement, le groupe de 4, quand il part, pendant très longtemps, les poursuivants, ils sont à quoi? Ils sont à 7-8 secondes. Dans chaque virage, on les voit, ils sont là, tu vois. Mais avec le vent, machin, tout ça, tu sens que tant que t'es pas dans la roue, t'es pas rentré, dans la quoi.
Tu rentres pas. Non, c'est vrai que du coup, ça empêche le retour de ceux de derrière, mais et puis bon, l'avantage aussi, c'est que il était avec des gars qui étaient aussi qui allaient être contents de faire deux ou trois. Donc ils allaient pas forcément se caler dans la roue en disant bah écoute, moi mon gars, gagner l'Amstel, je m'en fous un peu, ou faire podium, ça m'intéresse pas. Donc ouais, mais en tout cas il a bien manœuvré dans, enfin moi je trouve qu'il a parfaitement manœuvré. Son équipe en plus a roulé aussi avec la Alpecin en une bonne partie de la course pour contrôler.
La petite attaque de Kiatko.
Ça veut dire, bah là, la classique de toute façon sur l'Amstel, Kiatko, il a la maison là.
C'est ça.
Donc ouais, non, qui a préparé le terrain un petit peu, hein, ça a fait bouger Van Der Poel. Donc ouais, bien manœuvré, et puis voilà, une belle victoire pour lui qui avait déjà fait troisième et deuxième, donc il complète sa collection de médailles sur l'Amstel.
On vous salue toutes et tous dans le chat, salut Malo, Steve qui nous dit, petite pointe de Pidcock pour ce sprint de 2021. Ah bah, il a dit quoi Pidcock à la fin, Steve, si tu veux nous dire, c'est cool. Stani qui nous dit bonjour aussi. Messieurs, dames, n'hésitez pas à mettre un petit like sur le live, c'est top, comme ça va permettre de mieux le référencer et éventuellement à d'autres personnes de venir causer vélo avec nous. Salut Rosé qui arrive juste maintenant, et puis pareil, hein, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, on a passé les 2000, on est bientôt au 2050, le petit écrase les pédales sur les meilleurs punchers là, du 21e siècle. Et magnifique, je vous conseille d'aller le voir, et j'ai vu que vous aviez été nombreuses et nombreux à réagir dessus, donc voilà, top. Adri, on enchaîne. Oui. Je te propose qu'on mette les FDJ un peu plus tard. On va déjà parler de tous les membres du groupe de tête, et donc on va parler de Hirschi. Hirschi retourne au prime. On s'y attendait pas forcément, il fait une bonne saison cette année, mais là il a vraiment été acteur plus de cette course. À plusieurs moments on s'est dit que c'était peut-être le plus fort, il a retrouvé, j'ai l'impression, son punch dans les bosses, où à chaque fois qu'il attaque on se rend compte qu'il arrive à décoller un peu les gars derrière et qu'il rentre un peu plus sur l'effort long. Il est pas loin au sprint, on peut peut-être lui reprocher une mauvaise décision sur ce sprint où il prend pas forcément le bon côté. C'est hyper intéressant parce qu'on peut pas dire qu'il se fait enfermer, en fait pour le coup il s'enferme tout seul entre. Alors il veut passer à gauche, puis finalement il veut passer entre Benoît et Pidcock, puis finalement il n'y a pas la place, alors il revient le long des barrières. Quand on se dit que ça va être le coéquipier du grand favori de Liège dans une semaine, on a de quoi s'inquiéter, ou ça va?
Bah, En tout cas, c'est cool pour lui de le voir revenir à ce niveau-là. Il faut pas oublier qu'il a que 25 ans, hein, et ça fait déjà, il a explosé en 2020, l'année où il remporte une étape sur le Tour, où il remporte la Flèche Wallonne. Et depuis, c'est vrai qu'il était un petit peu en difficulté, et bon, son arrivée chez
UAE. C'est ça, son passage chez UAE.
L'a relancé, mais tout doucement quand même. L'année dernière, hein, où il a recommencé à gagner quelques courses, c'était des courses de second niveau et il n'avait pas remontré, en tout cas ce qu'il a montré aujourd'hui, parce que bon, son début de saison est très bon. Hein, il a gagné, c'est la faune Drôme classique, je crois, mais la concurrence n'était pas à la hauteur de celle de l'Amstel. Et puis, il a été à l'initiative du coup décisif, donc ça veut aussi dire qu'il a, pareil, il a osé prendre des risques, il a senti le bon coup. Peut-être que c'est un des premiers à avoir compris que Van Der Poel n'était pas dans une grande journée et que finalement, la bonne option, c'était peut-être pas de calquer sa course sur lui, mais de tenter. Et puis, même dans le groupe des favoris, hein, à chaque fois que la décision se faisait, il était là, il était devant. Et comme tu l'as dit, c'est dommage pour lui qui manœuvre pas suffisamment bien le sprint. Il veut passer le long des balustrades alors que c'était clairement pas la solution. Et ben voilà, peut-être que s'il avait entamé le sprint en deuxième position, ça aurait été un petit peu différent, mais voilà, on va voir sur la flèche qu'il a déjà gagnée, s'il peut faire une belle perf, sachant que il y aura pas Pogacar sur la flèche, donc il devrait à nouveau être le coureur protégé de l'équipe UAE. Donc ça va être intéressant de le voir dans le mur de Huy, et puis en coéquipier de luxe pour Pogacar, hein. Je pense quand même que ça sera tout pour Poggi, mais à voir, hein, si on est dans un sur Liège, on en reparlera, mais si on est dans un scénario où la course se joue un peu de loin, avec des seconds couteaux qui partent et puis qui anticipent, ça peut être une belle carte pour l'équipe des Émirats Arabes Unis. Donc ouais, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, en fait, de retrouver des coureurs qui, à un moment, ont perfé, puis qui ont eu un petit coup de moins bien, qui n'ont pas confirmé. Il y en a tellement qui s'éteignent après que Hirschi montre qu'il n'est pas... Il n'est pas oublié et qu'il a encore de belles courses à faire.
Ouais, je trouve que depuis ses premières années, en gros, il est magnifique chez DSM. Il décolle chez UAE, c'est cata. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Finalement, il arrive petit à petit à revenir, et c'est hyper intéressant parce que mine de rien, cette saison, alors oui, c'est son premier gros résultat. Il avait fait 3e de Milan-Turin, mais Milan-Turin, c'est pas l'Amstel, on va pas se mentir. Là, il est pas loin, et c'est vrai que dans le sprint, s'il suit un peu Benoît, moi j'aurais plutôt vu, tu vois, genre quand il veut passer entre les deux, il se décale à droite pour prendre un peu la speed de Benoît, puis finir complètement à droite. Là,
rester protégé du vent le plus longtemps possible.
Ouais, mais il l'a fait dans la route, tu vois, dans la route Pidcock. Alors c'est vrai que peut-être qu'il s'attendait pas à ce que Benoît résiste aussi bien aussi, parce que moi, quand le sprint se lance, je me dis bon, allez, Pidcock, il va mettre deux vélos à tout le monde, on n'en parle plus. Mais ouais. Et encore, c'est heureusement que Pidcock est aussi gentleman et tout, parce que s'il sprint un peu plus en direction des barrières, enfin, à un moment, tu vois, sans l'enfermer complètement, il aurait pu aussi se décaler un tout petit peu, et ça aurait pu être plus dangereux. J'aime pas trop, moi, ces petits passages, tu vois, long des barrières, à chaque fois, ça me fait un peu dresser les poils, genre, tu sais, ça fait peur, quoi, tu te dis...
Sinon, faut tenter le sprint en diagonale à la Michael Matthews.
C'est ça.
Encensé après Milan San Remo pour ne pas avoir tassé Philippe Sainz dans les barrières. Et là, au Tour des Flandres, le pauvre, tellement cramé qu'il n'en a pas sprinté droit.
Tout à fait. On peut parler du Tige. El Tijos, le tracteur, celui qui nous a fait la plus grosse attaque qu'on ait jamais vue.
Attaque gros plateau, là.
La légende dit que ses pneus sont toujours dans la montée, là. Ils sont tranquillement. Ils ont fait une marque attaque exceptionnelle de Tige Benoît, que moi, j'ai trouvé ultra fort aujourd'hui. Alors, on sait que l'Amstel, ça lui réussit pas trop mal à Tige Benoît. Finalement, malgré les déboires qu'il a pu avoir et tout, il ne fait pas une si mauvaise saison. Bon, il avait fait quatrième d'à travers la Flandre, remporté par son coéquipier. Donc, voilà. Il fait 15e du Tour des Flandres, alors qu'on sait qu'il n'était pas en grande forme. Et puis, on a vu un peu ce que les Visma ont pu faire. Puis, je pense que tactiquement aussi, il s'est un peu cramé sur le Tour des Flandres. Et là, finalement, il nous montre qu'il faudra compter sur lui, sur ses Ardennaises. Alors, il n'a jamais remporté la Flèche Wallonne, mais il a déjà fait des top 10 et tout. Alors, je pense que malgré tout, ce n'est pas celle qui lui va le plus. Mais il a montré qu'il était costaud. Et puis, je pense qu'il fait une petite erreur aussi, Tige Benoît, là, qui lui coûte la victoire. Je pense qu'il se sentait en effet, et pour le coup, a raison, hein, beaucoup moins fort au sprint que Pidcock ou même Hirschi. Et finalement, avec ce vent de face, bah, fallait faire un sprint de costaud. Et quand il attaque là, 1,2 km de l'arrivée, 1 km, 1,2 km, bah, il en met une petite, et c'est peut-être les jambes qui lui manquent pour aller lever les bras aujourd'hui, parce que c'est vrai que sur le papier, quand on pense à Tige Benoît, bah, on le voit finir bien loin au sprint de Tom Pidcock, voire même de Mark Hirschi, et pourtant bah, ça joue à rien. Peut-être petite erreur de sa part, alors manque de fraîcheur ou vraiment inquiétude de se dire je suis pas plus rapide, allez je tente le coup du kilomètre et on verra bien.
Ouais, je pense qu'il, bah, assez logiquement, il partait battu face à Pidcock ou Hirschi. Et il fallait tenter. Après, il fallait peut-être le tenter autrement. Enfin, c'était un peu téléphoné parce qu'il est presque devant quand il attaque. Il attaque pas vraiment. Puis après, du coup, bah, il a les coureurs dans sa roue, puis il continue à forcer sous la flamme rouge. Et puis après, il y a le moment où ça se regarde. Bon, voilà. C'est même pas sûr s'il avait gardé sa cartouche, il aurait peut-être pas pu battre Pidcock quand même au sprint. Je sais pas. Après, bon, comme c'était un sprint vent de face, hein, on peut toujours, en faisant en sorte que ça se lance tôt, de déboîter. On a vu Hirschi revenir très très fort sur Pidcock. Donc, ça aurait pu lui sourire. Mais en tout cas, oui, je te rejoins. Tige, il aime beaucoup l'Amstel. Il avait déjà fait troisième en 2022. Hein, c'est l'année Van Aert Pidcock, si je ne me trompe pas. Mais ouais, clairement, c'est une course qui lui correspond bien, qu'il aime bien. Et ouais, il arrive à anticiper et à prendre les bons coups assez régulièrement. Hein, on le voit sur les semi-classiques flandriennes, souvent. Hein. C'est vrai qu'il est toujours hyper à l'aise sur les semi-classiques, genre à travers la Flandre, tu l'as dit. L'année dernière, il remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il arrive à trouver les bons coups et puis anticiper. Après, ouais, souvent, il faut qu'il arrive... Le problème, c'est qu'il faut qu'il arrive en général seul pour pouvoir l'emporter. Et ben là, il n'était pas assez costaud quand même pour lâcher ses compagnons d'échapper. Mais ouais, c'est cool pour lui, pour le printemps de la Visma, qui est forcément pas à la hauteur des espérances, hein, pour le moment, à cause de cette chute de Van Aert. Donc... c'est un podium sur une des plus grandes courses du calendrier, donc c'est toujours très bon à prendre.
Avant qu'on passe à Paul Lapeyra, qui nous a fait masterclass aujourd'hui, on peut le dire, un petit mot pour Maury Van Sevenant, lui aussi, hein, qu'on avait vu un petit peu nous sauter aux yeux il y a 2-3 ans. L'année dernière, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis là, alors que je pense que pas grand monde mettait une piécette dessus, en profitant de l'absence de Remco, il nous montre que voilà, il a l'air toujours à l'arrache, il a l'air toujours dans le dur, mais il fait une belle quatrième place, même si on sent que quand même sur la fin il lui manquait un peu de kilométrage, notamment sur la petite attaque de Pidcock, là il est décroché, et puis comme tu disais là, il voulait finir à 4, il voulait pas se faire rattraper par les gars derrière. Il emmène tout le monde parfaitement, on aurait dit un équipier de Pidcock. Et voilà quoi.
Ouais, il court, clairement, oui, il court pour faire 4 dans le final. Je pense qu'il était déjà content d'être là. Il était hyper costaud parce qu'il est rentré sur les 3. Hein. Il n'était pas avec eux au début. Voilà, en pédalant bien avec les oreilles. Je pense que ça l'a bien aidé à rentrer. Et ouais, après, de toute façon, il était trop juste. Il lui manque encore un petit quelque chose. Et après, dans ces cas-là, bah, soit tu te dis... je roule pas, je me réserve et puis je tente le tout pour le tout sur une attaque avant en essayant de les surprendre, ou alors bah tant pis, j'y vais et puis je roule pour faire dernier du groupe. C'est ce qu'il a fait. Je pense que il avait vraiment envie de au pire faire quatrième plutôt que de terminer huitième s'il se faisait prendre par le groupe de derrière. Bah voilà, ça on sait, hein, que maintenant tous les coureurs ne courent pas pour la première place, et il y en a qui se satisfont du 4, 5, 6e place, et ce qui est un beau résultat. Et c'est aussi sûrement ce qui a aidé Pidcock à l'emporter et puis à ce que le groupe de chasse où il y avait quelques Français ne revienne pas.
Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ils pensent aux mecs qui les prennent dans les Cycling Fantasy League, tout simplement, voilà.
Ou alors, faudra voir, je sais pas, il est en fin de contrat. Non, 2026.
Non, il a le cœur sur la main, le type.
Parce que sinon, ouais, mais tu vas voir, il va être chez Ineos l'année prochaine. Ouais. Ça, on n'est pas à l'abri.
Pense à toi, parce que tu vois, on en connaît trop, des mecs qui sont là, je suis pas premier, je finis dixième, et toi, t'as mis 1200 points dans eux, et au lieu de finir quatrième, et voilà, tu vois. Voilà, Maury Van Sevenant, il s'est dit, dédicace à tous ceux qui m'ont pris dans leur équipe Cycling Fantasy, je suis là, les gars, je suis là. Celui que j'ai pas pris dans mon équipe Cycling Fantasy, pourtant je l'avais pris sur le Tour du Pays Basque, c'est Paul Lapeyra. Magnifique Paul Lapeyra qui était dans l'échappée matinale, qui a réussi à s'accrocher quand le gros groupe de 12-13 l'a rejoint, et puis qui a même fait mieux que ça, puisque sur l'arrivée, bah, ça a été un des seuls à se dire, et du coup on parlera après de la Groupama FDJ qui était deux dans le second groupe et qui n'ont pas forcément fait la meilleure course, mais en tout cas, Paul Lapeyra qui a essayé de rejoindre le groupe de devant, qui était à deux doigts de le faire si Tom Pidcock n'avait pas appuyé sur les pédales. Et puis, moi, j'ai été ultra surpris parce que, alors, c'est pas le coureur que je connais le plus, hein, mais vu la pointe de vitesse qu'il a, je l'imaginais peut-être potentiellement un peu... pas en difficulté, mais pas forcément capable de passer aussi bien les boss qu'on a vu aujourd'hui. Bah, que nenni, le gars, il est là, il n'y a pas de souci, il punch très très bien. Il a montré aussi des qualités assez ouf pour réussir d'endurance, hein, pour réussir à tenir sur ses 250 bornes alors qu'il était devant dès le matin et que voilà, quand tu te dis putain, c'est lui qui essaye de faire la jonction sur la fin alors que le gars, il en a plein les pattes et qu'il est là depuis le matin. Enfin, c'est assez ouf, donc ouais. Grand bravo à Paul Lapeyra qui, je pense, est tranquillement en train là de rentrer un peu dans les têtes de tout le monde. Et je sais pas ce que t'en penses, mais c'est clairement le genre de type sur lequel on va peut-être devoir bien compter pour les prochaines années.
Ouais, en tout cas, il a fait une course incroyable aujourd'hui. Le fait d'être comme ça à l'avant, de se faire reprendre par le groupe en général. Bah, t'accroches les routes et t'es déjà content. Et non, lui, il a réussi à ressortir dans le final et puis bah son compagnon d'échappée le dernier qui est resté avec lui, alors j'ai oublié le nom, mais en tout cas ils ont tous sauté ceux qui étaient échappés avec lui et il a réussi pour moi dans le final j'en avais même oublié qu'il était dans l'échappée matinale en fait,
de ouf, ouais, c'est clair.
Il a réussi derrière, il sent qu'il y a moyen de revenir à l'avant, paf, il contre, il est à 5 secondes à un moment de rentrer, il bouge ses 5 secondes, il peut remporter l'Amstel, c'est
imagine,
presque
putain, imagine.
Et c'est clairement à l'image de son superbe début de saison, il remporte une belle victoire autour du Pays Basque, il a brillé aussi sur... c'est la classique Loire Atlantique et le Cholet Aglotour qu'il a remporté coup sur coup deux jours de suite. Et clairement, oui, je te rejoins, il a que 23 ans, bientôt 24. Et il a une super pointe de vitesse. Et ça va lui permettre de gagner des belles courses. Et avec ce profil puncher qui va vite au sprint, on sait que c'est des caractéristiques qui sont hyper favorables pour emporter des Ardennaises notamment. Apparemment, ça semble être son terrain de prédilection.
Le mental qu'il a. Enfin, t'imagines, ouais, avec le vent et tout, se dire, tu sais quoi, je suis là depuis ce matin, moi, mais c'est pas grave, je vais y aller. Ouais, vous pouvez pas, vous quoi. Moi, j'y vais. Allez, c'est pas grave.
Ouais. Ouais, non,
alors que vu sa pointe, il peut se dire, tu sais, moi, j'étais là ce matin, je mets pas un coup de pédale, je fais cinquième, hein, parce que je vous pète tous au sprint, les gars. Et malgré tout, tu vois, il essaye d'aller chercher plus. Enfin, ouais. Top.
Après, peut-être que la solution aurait été de laisser quand même les FDJ rouler, eux qui étaient deux, et puis d'espérer qu'ils rentrent. Et puis là, il aurait peut-être que s'ils étaient. Enfin voilà. Après, ils sont pas rentrés, mais en claquant un gros sprint derrière, bon, c'est toujours facile à dire après. Mais en tout cas, on le reverra à l'avant très vite et j'espère très fort.
Salut Tony, et bah écoutez, mon cher Tony, on a prévenu un peu tardivement qu'on faisait un live ce soir. On n'était pas forcément sûr, mais voilà, on est bien là. Alors, on va pouvoir faire la transition. Thierry Palu, tu demandes le classement des 10. C'est de 1 à 10 parce qu'il est sur la gauche ou c'est de 10 à 20? Si c'est de 10 à 20, je peux te le mettre là. On a Matthews 10e, Vandenberg qui, malgré sa chute, a quand même réussi à faire 11e. Et puis voilà, Grégoire 12e, Cosnefroy 16e. Juste, tu parlais des FDJ, Adri, et je te propose qu'on en parle, mais peut-être même plus globalement pour parler du deuxième groupe, en fait. Et bah, tu vois, j'ai vraiment eu l'impression que dans cette course, on a eu, et pourtant, quand tu vois les noms qu'il y avait à l'avant, je me suis dit que c'est peut-être ceux qui s'entendraient le moins, parce que t'avais quand même que des mecs qui ont déjà un petit palmarès. Enfin, tu vois, je veux dire, Pidcock, Hirschi et Benoît. Bon, tu me diras, derrière, il y avait du monde avec du palmarès aussi. Pas forcément un bon argument. Mollema, Bilbao et tout, ça y va. Mais je sais pas, ouais, j'ai trouvé les FDJ pas au top. Alors, dans le chat, on nous dit, on avait l'impression que Paché était meilleur que Madouas aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que Paché, depuis le début de la saison, il est très très fort dans beaucoup de courses, même sur Paris-Nice où on l'a vu rouler pour Gaudu 2-3 fois. Et je me dis, mais Paché, j'ai l'impression que cette année il est exceptionnel, je le vois toujours rouler pour ses leaders et avoir et moi j'ai l'impression qu'il a presque plus de jambes qu'eux, notamment un moment où bah, quand l'Apéra part, Paché part en compte derrière, puis c'est Madouas en fait qui ramène les 4, là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, j'ai vraiment pas compris, est-ce qu'il s'est dit genre je me colle, enfin j'essaye de rattraper Paché ou Paché en métro, mais ça n'avait aucun sens dans ces cas-là. Pour moi t'es Madouas, tu regardes les autres, tu leur fais bah allez-y en fait, puis tu t'économises un peu plus si t'es au rupteur, parce que vraiment très difficile à comprendre. Pourtant ils étaient deux. C'est les seuls qui étaient surreprésentés dans ces groupes-là. Ouais, franchement, je suis pas.
Moi, je pense que Paché était plus fort que Madouas.
Ah, mais je pense aussi, clairement. Ouais.
Et que malheureusement, on a dû dire bah ou c'est ce qui était prévu ou c'est ce qui était prévu. Et puis Madouas, c'était le leader de l'équipe, donc bah du coup, quand t'es équipier, tu roules pour ton leader. Et on connaît plein de situations où ça arrive. Et peut-être que Madouas, alors on n'en sait rien, mais enfin moi j'en sais rien en tout cas. Mais peut-être que Madouas a pas dit à Paché qu'il se sentait pas ouf. Puis bon, il était devant. Donc, je sais que ça allait quand même à peu près. Mais on voit qu'il, dès que ça accélère, moi j'étais surpris, je pensais que Padoise, il pourrait accrocher devant. Et dès que ça accélérait, en fait, malheureusement, il n'y arrivait pas. Et ouais, Paché était costaud. Et c'est. Alors. De toute façon, je pense que les quatre meilleurs, ils étaient devant hein, du groupe de tête. Hein, c'est sorti oui. À la pédale quand même. Voilà, après, on va dire que la sélection naturelle s'est faite comme ça. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup, beaucoup mieux à espérer. Je pense que pareil, si Romain Grégoire a... Alors après, c'est le coup est parti de manière assez tactique. Donc peut-être que Grégoire n'est pas sorti. Et vu qu'il y avait déjà deux gars de la FDJ... c'était pas à lui de faire l'effort et que lui, il devait plus rester avec Van Der Poel. Mais bon, après, la FDJ, ils s'en sortent bien. Hein. Ils ont deux coureurs dans le top 10. Je pense que, voilà, avec Madouas et Paché devant, en tout cas, pas sûr qu'ils auraient pu espérer mieux.
On nous parle de Tony qui nous dit que Cosnefroy a déjà devancé par ses nouveaux coéquipiers, un peu comme peut-être Grégoire ou d'autres, Adri, j'ai l'impression que Cosnefroy, il a trop calqué sa course sur Van Der Poel, il nous en a parlé après la Brabanson en disant c'est possible de battre Van Der Poel, machin, tout ça. Je pense, et peut-être à raison, hein, il s'est dit... Non, mais là, les gars, devant, vous cramez. On l'a déjà vu sur le Tour des Flandres, on l'a vu sur Paris-Roubaix, machin, tout ça. Arrêtez d'anticiper. Quand il va démarrer, il va tous nous mettre à l'amende. Et en fait, Mathieu Van Der Poel, il a jamais démarré. Et bah, Cosnefroy, il finit simplement dans le groupe qui est derrière, quoi.
Ouais, alors qu'à la Flèche Brabanson, il avait senti le coup partir et il a fait le jump quand il fallait pour revenir à l'avant. Et bah là, il a pas. Je pense qu'il a pas osé parce que. On voit à un moment, il met une attaque, il était hyper costaud. Mais c'est marrant, j'ai senti l'attaque de frustration quand il l'a faite dans le final. Ou en mode, j'ai les jambes, mais du coup, je me suis un peu fait avoir tactiquement. Après, si Van Der Poel est dans un grand jour, tu sais qu'il fallait que si tu restes avec lui, ça semble compliqué de le battre. Donc après c'est le vélo. Il faut aussi avoir de la réussite et puis un sens tactique sur ces courses. Mais on va le voir, je pense à la Flèche wallonne, non, Cosnefroy.
Oui, puisqu'il va la gagner. Et là, il n'y aura y a pas besoin d'être tactique à la Flèche Wallonne. Hein. Je t'explique, tu arrives en bas, faut pas attaquer trop tôt. Là, mais...
c'est l'avantage.
T'appuies fort sur les pédales et ça va aller. Hein. un petit mot quand même pour IF. On les a vus très forts. On les a vus à l'avant, notamment avec Honoré, hein, qui était devant avec la Pera. Et puis derrière, on les a vus bouger, les Illy, les Carapaz, etc. etc. On les a vus finalement, donc pas forcément sentir le bon coup au bon moment ou pas être capable de y aller, bien que Illy me faisait une bonne impression, moi. Malgré tout, à la fin, bah, ils se sont dit, bon, on a peut-être le gars le plus rapide au sprint avec nous, on va rouler. Malheureusement, c'est quoi ça, 10 bornes de l'arrivée, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus
à
proche.
Peu près, un peu moins même.
Ouais. Que Vandenberg va subir une chute et puis derrière, ils arrêtent de rouler. Et pareil, quand on voit que le peloton finit à 10 secondes, s'il n'y avait pas eu cette chute, peut-être que finalement, leur tactique, alors ils n'ont pas senti le coup, je pense que c'était pas tactique de pas mettre un mec à l'avant. À mon avis, ils misaient pas sur Honoré qui allait se faire rattraper par les gars de devant, mais ouais, peut-être que finalement, on a vu après Illy rouler comme un dingue pour essayer de ramener le peloton pendant plusieurs kilomètres. Ça aurait pu faire mieux, Vandenberg, qui est en bonne forme depuis le début de l'année.
Ouais, Vandenberg, hyper impressionnant, parce que c'est en regardant le classement tout à l'heure, après la course, j'ai vu en fait, c'est vrai qu'il fait deuxième du sprint, il a pu revenir dans le peloton, et effectivement, IFI était en train de réduire l'écart. Bon, après, s'ils avaient continué à rouler, peut-être que devant, ça se regarde moins longtemps, et ils arrivent quand même, mais pour la gagne. Mais je pense que IF a surtout fait l'erreur de pas mettre un des coureurs qu'ils avaient. Ils avaient plusieurs gars qui pouvaient aller, comme Carapaz ou Benili, dans le coup lancé par Hirschi. Donc c'est ça un petit peu qui était dommage, et peut-être d'avoir un peu trop attendu avant de vraiment mettre en route derrière. La décision de se dire on va tout faire pour Vandenberg, peut-être arriver un petit peu tard pour espérer vraiment rentrer. Donc ouais, voilà, peut-être pas très bien senti la course, et ils ont peut-être pas pu adapter leur plan assez tôt.
Très bien, écoute Adri, on va finir avec celui qui était l'épouvantail, comme nous dit Tony, de cette course aujourd'hui, c'est Mathieu Van Der Poel, qui, même s'il a fait rouler ses gars, même s'il a répondu aux premières attaques, notamment celle de Katko, n'a pas peut-être pas semblé dans son meilleur jour. Alors, deux possibilités. Est-ce que simplement il a raté le bon coup, puis il s'est dit, on l'a vu du coup ne pas, enfin laisser les autres anticiper et venir régler tout le monde plus tard sur d'autres courses. Là aujourd'hui, ça a pas été le cas. Les gars de devant ont pris l'avance. Soit il avait pas les jambes de les suivre, soit en effet il a un peu raté le coup tactique, soit simplement il s'est dit on met pas tout aujourd'hui parce que ma grande échéance c'est la semaine prochaine. En tout cas, celui que je pense qu'on a toutes et tous mis dans notre équipe Cycling Fantasy et que tout le monde voyait comme grand vainqueur aujourd'hui n'a pas levé les bras, et on peut même dire n'a pas pesé sur la course.
Non, il a pas pesé sur la course, même si son équipe a roulé quasiment toute la journée, et mais du coup il s'est retrouvé assez vite sans équipier. Enfin, il y avait plus que Quinten Hermans, Axel Laurens un petit peu. Et sur cette course, c'est hyper tactique. Hein, le peloton, enfin, ils étaient encore une cinquantaine devant, et clairement Van Der Poel, alors il a dit qu'il n'avait pas les jambes pour réagir à toutes les attaques, et clairement. C'est lui qui allait être regardé à chaque offensive, donc il était obligé de jouer un petit peu comme ça avec ses adversaires, en sachant qu'il n'était pas forcément dans une grande journée, et que c'est assez particulier. Enfin, tu peux pas maîtriser cette course tout seul. C'est tellement ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens, et il y a une telle densité de coureurs qui peuvent encore se planquer dans les roues. Il y avait pas mal de vent, donc c'est sûr que là, sa tactique du Tour des Flandres, j'attaque de très loin et puis je fais solo, c'était un petit peu plus compliqué à mettre en place, surtout que visiblement. C'est ce qu'il a dit, en tout cas. Il n'était pas dans une grande journée, donc il avait sûrement décidé aussi d'enclencher sa course un petit peu plus tard, en prévision de la semaine prochaine, Je sais pas, mais bon, son début de saison a beau être magnifique, je pense quand même que ces longues escapades là, ça lui a pesé un petit peu dans les jambes. Voilà. En tout cas, on découvre, enfin non, on découvre pas, mais on voit qu'il est battable. Et puis c'est ça aussi, Van der Poel, à un moment il nous habitue à ça en cyclocross, c'est soit j'y vais pour gagner, soit bah tant pis, et puis du coup je termine une place anecdotique, et je pense qu'il a assez vite compris que ce serait pas pour lui aujourd'hui. Après, du coup ça a foiré les plans de tous ceux qui avaient calculé la course juste sur lui, mais ceux qui ont senti la course, ils finissent devant, du coup, et tant mieux pour eux.
Tony, il a tellement la dalle de quiz qu'il en pose dans le chat comme ça, Adri, je sais pas si t'as vu. C'est Yann Rass, il me semble, qui a le record de victoire sur l'Amstel. Il ne dit pas moins de bêtises.
Surnommé l'Amstel Gold Rass, voilà. Du coup.
À ne pas confondre avec Jeanne Mas. Alors, une lettre près, mais, mais ouais, c'est pas le même sport. Voilà.
Et Pidcock, premier britannique à l'emporter, d'ailleurs.
Passage. Ouais. Par contre, j'ai pas le pays qui a le record. Tu l'as, Adri, si c'est Belgique ou Pays-Bas.
Je pense que c'est les Pays-Bas, ouais.
Ou alors c'est une question piège et Jeanne Mas a le record, et c'est les Belges qui malgré tout individuellement grâce à Tom Pidcock aujourd'hui qui a refait pencher la... pas du tout. Ok, très bien. Est-ce que tu penses, Adri, parce qu'on m'a dit dans l'oreillette que tu serais peut-être pas présent jeudi pour la preview de Liège-Bastogne-Liège, est-ce que tu penses que cette course de l'Amstel nous montre une première fébrilité de Mathieu Van Der Poel pour Liège la semaine prochaine? Est-ce que tu penses que malgré tout on peut s'attendre à ce qu'il soit au rendez-vous?
Je pense que de toute façon quand il va sur une course d'un jour comme ça, c'est pas pour faire de la figuration. Il sera attendu pour le duel avec Pogacar. Je pense pas non plus qu'il ait pensé à Liège toute la journée aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il aurait été très heureux de gagner la plus grande course d'un jour de son pays avec le maillot de champion du monde. Donc il n'était pas en mode je vais pas remporter cette course, ou c'est juste une préparation. Voilà. Après, sur Liège, c'est quand même une course qui est très différente, qui est avec des ascensions qui sont plus longues. Et Pogacar est quand même largement au-dessus. On se souvient, hein, quand Pogacar gagne le Tour des Flandres l'année dernière, il lâche Van der Poel dans le mont le plus long, qui est le Vieux Coin. Parce que la durée d'effort dans la montée est beaucoup plus importante. Et ça favorise Pogacar par rapport à Van der Poel. Et pour moi, Pogacar peut faire sauter Van der Poel comme il veut dans n'importe quelle ascension de 4 ou 5 kilomètres. Et il y en a un paquet sur Liège-Bastogne-Liège. Mais du coup, ça va être intéressant à voir parce que Van der Poel va être aussi dans un autre statut. Il ne sera pas le grand favori comme il a eu l'habitude de l'être depuis le début de l'année sur toutes les courses auxquelles il a participé. Il sera... je pense un outsider quand même parce que il a fait une fois Liège-Bastogne-Liège, je crois que c'était en 2020, il fait sixième. Donc c'était pas non plus à la ramasse. Mais c'est pas dans le groupe, c'est pas dans le premier groupe. Donc voilà, moi je pense que ça va être compliqué pour Van der Poel la semaine prochaine, en plus de son début de saison qui lui a coûté, je pense, déjà beaucoup d'énergie. Mais bon, il repart comme à son habitude en Espagne, il va prendre le soleil, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça va être sympa à suivre.
Je me pose la question, je la poserai à Loïc, j'aimerais bien son avis. Est-ce qu'à ton avis, pour un Hollandais, il vaut mieux gagner l'Amstel ou Liège? Sachant que oui, Liège, c'est la doyenne et tout, mais on sait que le délire de monument, qualification monument, c'est presque un truc un peu plus journalistique que vraiment...
récent en plus.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'un Hollandais a pas... Parce que 2000, si tu prends pour le coup, et d'ailleurs Thierry l'a très bien dit avec un petit commentaire aujourd'hui sur la gueulante du père de Sarre sur l'Estrade Bianchi en disant que le sixième monument c'était l'Amstel. Quand tu regardes, alors malheureusement pour l'Amstel, t'as Liège et l'Amstel en mieux, entre guillemets. Enfin voilà, c'est la grande Amstel, un peu comme le 3.
L'Amstel, c'est aussi le Tour des Flandres sans pavé. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait le dire comme ça. C'est pas
moi,
faux.
Je trouve que ça se rapproche beaucoup plus du Tour des Flandres.
J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai. T'as raison.
Ah ouais, si. Dans le fait de tournicoter dans tous les sens, tu repasses sur les mêmes routes, mais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est des monts. Les caractéristiques des montées sont les mêmes. Elles sont courtes. Elles sont pentues. C'est juste qu'il y a pas de pavé sur la piste.
Non, c'est vrai. C'est très juste. Tu vois, j'avais jamais pris le problème comme ça. Et oui, c'est clairement intéressant. En tout cas, du coup, ouais, j'aimerais bien savoir, je sais pas si toi, Thierry, qui parle, enfin Thierry, pardon, Tony, qui parle hollandais et qui est assez proche des Pays-Bas, est-ce que tu sais un peu ça? Est-ce que tu pourrais nous dire si pour un Hollandais gagner l'Amstel, c'est plus prestigieux que gagner Liège? Voilà. Pareil, Loïc, on va très vite venir te poser la question dans le groupe et on vous donnera la réponse très bientôt. Adri, est-ce qu'on a fait le tour sur cette magnifique Amstel Gold Race?
Bah écoute, je pense qu'on a été assez complet, en tout cas sur les coureurs qu'on a vus à l'avant. Et ouais, voilà. Rien de. Enfin, ça met en jambe pour la course de côte de mercredi avec la flèche. Pareil, moi j'adore aussi cette course. Pour cette intensité du mur de huit, en fait, tu sais que ça va arriver groupé au pied, que tout va se jouer dans la dernière ascension du mur de huit, dans les deux derniers kilomètres.
Que le premier mec fort qui va attaquer, c'est pas celui qui va gagner. Pourtant, tu vas quand même te dire, on sait jamais.
Tout le monde sait à quel endroit il faut attaquer. Si tu pars trop tôt, tu coins.
Sauf Roglic, lui, c'est pas.
Il l'a fait qu'une fois. Hein.
Oui, coup, mais il avait attaqué, tu te rappelles, il avait attaqué beaucoup trop tôt.
Ouais, bah oui, mais il l'avait jamais fait encore.
Ouais, c'est vrai.
Ça joue aussi hein, beaucoup. Hein.
Ah, ouais, c'est sûr.
Et c'est pour ça que Alaphilippe, qui avait l'expérience, l'avait cueilli. Et ça va être intéressant à suivre. Et pour parler de la flèche, je suis content que cette course soit comme elle est, mais à un moment il y avait une tendance à toujours arriver au sommet d'une petite bosse et ça en était chiant parce que tu sais c'est l'époque où Philippe Gilbert il gagnait beaucoup,
Valverde
à la fin des années Philippe Gilbert Valverde et genre l'Amstel, Liège et la flèche ça finissait tout le temps en course de côte et du coup c'est cool que les parcours des deux autres courses aient été un peu plus a été modifié pour retrouver des physionomies de course sympas, mais que la flèche reste une course de côte. Je trouve ça cool parce qu'il faut aussi que des coureurs qui ont ces caractéristiques-là puissent s'exprimer et l'emporter.
Oui, puis c'est cool, ça fait vraiment, tu sais, quand t'as des courses ultra spécifiques comme ça, t'as vraiment l'impression que c'est les mecs qui se donnent rendez-vous là, quoi.
Mais
genre,
ouais,
c'est une
ça.
Petite poignée de gars, ils attendent que ça toute l'année. On verra qui c'est le plus fort.
Des pure punchers.
C'est ça, exactement.
T'as rien d'autre, quoi, c'est du pur punch. Voilà.
Ok, top. Et ben en tout cas, mercredi, il y aura pas de preview, hein, je pense, de la Flèche Wallonne. Il n'y a pas besoin, vu que c'est Benoît Cosnefroy qui va gagner. Voilà la preview. Et il y aura pas de débrief non plus. On peut vous le dire aussi parce que vu que c'est Benoît Cosnefroy qui va gagner, la débrief est faite. Mais par contre, on se retrouvera jeudi pour une petite preview de Liège-Bastogne-Liège. On verra un peu après pour la suite comment on fait, mais on prendra peut-être une petite pause. Alors pas une pause absence totale, hein, mais avant le Giro, parce que là on a quand même pas mal. Enchaîné, on a essayé de vous faire un peu plus de
live. Le Giro.
De quoi?
Et il va vite arriver le
Giro. Oui, c'est ça, exactement. Et on sait que voilà, après il y a des lives sur des lives, des machins, des trucs. Et puis, comme on le dit souvent, à partir du moment où il y a l'Estrade Bianchi, après c'est autoroute jusqu'au Tour de France, voire la Vuelta cette année parce qu'il n'y aura pas de décalage. Il y aura même les Jeux Olympiques après le Tour de France si jamais on s'ennuie. Génial. Donc, on prendra peut-être une mini pause là avant le Giro. En tout cas, merci de nous suivre nombreuses et nombreux. Ça fait super plaisir. Vous étiez encore plein sur ce live ce soir. Merci d'avoir participé. Comme vous avez l'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça permet de mieux référencer la vidéo. Pareil, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme ça que la chaîne grandit. On a passé les 2000 grâce à vous. Maintenant, c'est le road 3000. Hein. On va pas se mentir, Adri. Quand on passe un cap, on en met un deuxième. Non, c'est comme ça que ça marche.
Bah, il paraît, ouais. Il paraît. Dans le toujours plus.
Exactement. Non, en vrai, on est déjà tellement content d'être à 2000. Alors oui, par rapport à plein de trucs sur YouTube, c'est ridicule. Mais nous, par rapport à notre projet, et surtout, on est content de pouvoir partager tout ça avec vous, quoi.
Ouais, ça, on pensait, ouais, c'est pas un objectif en soi, mais on n'y pensait même pas en fait en créant tout ça. Et du coup, c'est cool. Et puis, on voit que là, vous êtes encore nombreux pour un live après l'Amstel. Voilà, le chat qui est actif. Du coup, ça c'est c'est toujours cool. Donc merci, merci à tout le monde.
Malo qui nous demande si on fait des débriefs pour chaque étape sur les grands tours. Non, généralement, on fait un fringa live tous les 3 jours, c'est-à-dire 2 par semaine. Voilà. Ouais. Et par contre, on essaiera, on verra pour le Giro, faut qu'on revoie avec notre collègue.
Ah,
pour,
Tony avait déjà répondu, un live toutes les 4 étapes.
Ah, Tony, t'es magnifique.
Tony, fidèle au poste.
De ouf. Et à la fin, c'est Tony qui gagne les quiz. Voilà, on vous le dit. On essaiera de réactiver le site, en tout cas pour le Giro, le site de quiz et de prono et tout, ça pourrait être cool. On verra avec notre collègue qui a fait ça l'an passé. Et puis voilà. En attendant, bonne soirée, mesdames et messieurs. Salut Adri. On se retrouve bientôt.
Ouais, salut à Thorne, à plus, bonne soirée à tout le monde, ciao ciao.
Bonne soirée à toutes et tous, et n'oubliez pas de vous alimenter, car il faudra pas claquer une fringale dans le mur de 8, vous connaissez. Allez, bonne soirée à toutes et tous, ciao ciao.